VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila Kidza en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. C'est un plaisir de vous présenter cette deuxième édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, jeudi 9 mars 2017. Voici d'abord le sommaire. Au Cameroun, un nouvel accident ferroviaire a fait 3 morts. Inquiétude grandissante de la diaspora africaine dans le pays arc-en-ciel sur la montée des violences.
Les migrants en Afrique du Sud vivent dans une peur totale parce que le gouvernement ne prend pas des mesures assez strictes pour décourager ceux qui incitent à la violence.
Le président de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, Marc Bafou. Et les États-Unis envoient 400 soldats supplémentaires en Syrie. Les interpellations d'émigrés clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont chuté de 40%. Ne ratez pas l'économie et les sports à suivre après le journal. Nouvel accident ferroviaire au Cameroun impliquant la compagnie Camrail. Un de ces trains affectés aux travaux de renouvellement de la voie ferrée a tué 3 passants hier soir à Yaoundé. Les détails de Jacques Aristide.
Dans un communiqué, Camrail précise que le train de travaux de retour du chantier à l'entrée de la capitale camerounaise a percuté plusieurs personnes sur la voie ferrée. L'opérateur a fait état d'un corps retrouvé sur la voie et d'un autre récupéré par une famille avant l'arrivée des secours, alors qu'un blessé a rendu l'âme à l'hôpital où ont été admis également 2 autres blessés. Ce bilan est toutefois remis en question sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'il est en deçà de la réalité. C'est donc une nouvelle polémique que provoque cette tragédie après le déraillement qui avait fait près de 80 morts en octobre dernier à Ezeka entre Yaoundé et Douala. La Fondation camerounaise des consommateurs se demande si une locomotive doit rouler dans la nuit sans phare ni klaxon. Un responsable de Camrail répond que le train klaxonne là où il y a un passage à niveau et qu'il n'en avait pas sur le lieu de l'accident. Tout en présentant ses sincères condoléances, la société ferroviaire rappelle que la circulation des personnes sur la voie ferrée est interdite.
Jacques Aristide, arrestation aujourd'hui au Maroc de 2 membres présumés de l'organisation État islamique. Ils sont accusés de planifier des attentats dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Cette opération a également permis la saisie de divers matériels et équipements suspectés d'être utilisés dans la fabrication de charges explosives. Au Nigeria, 2 policiers ont été condamnés à mort aujourd'hui pour les exécutions extrajudiciaires de 6 commerçants de l'ethnie Igbo. Ce meurtre a été commis en 2005 à la périphérie de la capitale Abuja et avait choqué la population. 6 policiers avaient initialement été inculpés de complot et d'homicide volontaire. Mais les condamnés s'en sont défendus, affirmant que les victimes étaient des bandits armés abattus pour refus d'arrêter leur véhicule lors d'un contrôle routier. En Égypte, un tribunal d'Alexandrie a condamné à mort aujourd'hui un Égyptien de confession musulmane pour le meurtre d'un concitoyen chrétien copte. La victime était assise devant son magasin de boissons alcoolisées et il lui avait tranché la gorge. Le verdict peut encore faire l'objet d'un appel. En Gambie, les autorités ont exhumé le corps d'un opposant au régime de Yahya Jammeh pour les besoins d'une enquête sur son décès. Solo Sandeng, un responsable du Parti démocratique unifié, est mort en détention en avril 2016 après son arrestation avec plusieurs autres personnes pendant un rassemblement pour réclamer des réformes politiques. Son décès avait suscité une série de manifestations politiques dans le pays. Son autopsie doit permettre de déterminer la cause réelle de sa mort. Le rapport médical sera transmis à la justice pour le procès contre 9 ex-agents du renseignement devant la haute cour de la capitale. Banjul a également annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'agression la semaine dernière d'un journaliste par des militants de la coalition soutenant le président Adama Barrow. Keba Jefang, du journal privé Foroya, a été prise à partie dimanche lors d'une conférence de presse des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Tourisme. Au Kenya, les hôpitaux ont commencé aujourd'hui à licencier des médecins qui ont participé à une série de grèves et revendiqué une hausse de salaire. Les précisions avec Didi Diko.
12 médecins du principal hôpital du Kenya, le Kenyatta National Hospital, ont été licenciés ce matin pour avoir participé aux grèves qui durent depuis le mois de décembre. L'inquiétude désormais est de savoir quelle va être la suite des événements. De nouvelles vagues de licenciements auront-elles lieu dès lundi? Les administrations des hôpitaux kényans ont fait savoir leur ras-le-bol en renvoyant ces 12 médecins. Ces hôpitaux sont paralysés depuis des mois par cette grève dont l'objectif est de réclamer une augmentation de salaire de 50% et de meilleures conditions de travail pour les docteurs et le personnel soignant. Ce licenciement intervient alors que le syndicat des médecins souhaite la signature de documents pour mettre fin à cette impasse et demander au gouvernement de faire de même. Cependant, les autorités ont fait savoir que le délai pour accepter l'augmentation de 40% proposée par le gouvernement a expiré il y a 2 jours.
C'était les précisions de Tatiana Mosso. Au Zimbabwe, plusieurs ambassades ont déploré aujourd'hui l'absence de progrès dans l'enquête ouverte par les autorités sur la disparition d'une figure de l'opposition. Itai Zamara a été enlevé il y a 2 ans après s'être exprimé pendant un meeting de l'opposition. Monsieur Zamara est considéré par les militants anti-Mugabe comme un martyr de la répression exercée par le régime de Harare.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Immigration aux États-Unis, le gouvernement enregistre une baisse de 40% des interpellations de clandestins à la frontière mexicaine en février. Le ministre de la Sécurité intérieure John Kelly monte au créneau pour positiver la politique migratoire du président Donald Trump. Les détails avec Morgane Guiriec.
La baisse du nombre des interpellations montre un changement de tendance marqué, affirme John Kelly. D'habitude, selon les chiffres du ministère, les interpellations d'immigrés clandestins par la police aux frontières américaines progressent de 10 à 20% chaque année entre janvier et février. Au contraire, cette année, nous avons vu une baisse du nombre des interpellations de 31 578 à 18 762, soit une diminution de 40%, insiste le ministre de la Sécurité intérieure. La dissuasion et l'application effective des textes en matière d'immigration a donc un impact, se réjouit-il. Donald Trump a esquissé le mois dernier devant le Congrès les contours d'une réforme du système d'immigration aux États-Unis qui doit consister selon lui à privilégier les immigrants les plus qualifiés et à faire preuve de fermeté avec les clandestins. Pourtant, quelques heures avant son discours, Donald Trump avait évoqué devant des journalistes à la Maison-Blanche la possibilité d'une loi de régularisation pour les sans-papiers n'ayant pas commis de délit.
Sachez, Morgane, que le groupe franco-suisse Lafarge-Koltzim se dit prêt à vendre son ciment pour la construction du mur anti-clandestin promis par Donald Trump. Ce projet est évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars. En Syrie, les États-Unis ont déployé une batterie d'artillerie des marines pour appuyer l'offensive sur Raqqa. Cette opération montre l'engagement croissant des Américains en Syrie, n'est-ce pas, Claire Morin-Gibourg?
Après Minjeb, dans le nord du pays, les militaires américains renforcent leur présence autour de Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique. Selon Reuters, ce sont 400 hommes qui accompagnent la batterie d'artillerie et ses canons de 155 mm. Un responsable américain a confirmé que ses troupes étaient prêtes à conduire leur mission de soutien à l'offensive sur Raqqa, confirmant ainsi les informations parues dans le Washington Post. Les 500 militaires américains présents jusqu'ici en Syrie étaient cantonnés à un rôle de conseil des forces locales, se battant contre le groupe État islamique, principalement l'Alliance arabo-kurde FDS, les forces démocratiques syriennes. L'offensive sur Raqqa a été lancée à l'automne dernier et les FDS sont désormais à proximité de la ville. Elles ont coupé les principaux axes de communication de Raqqa avec l'extérieur, ouvrant la voie, selon les militaires américains, au lancement de l'assaut final.
La Chine a demandé aujourd'hui aux États-Unis à cesser leur cyberattaque. C'est à la suite de la révélation du site Wikileaks d'un présumé programme de piratage d'appareils électroniques par la CIA. Selon des documents publiés mardi par Wikileaks, la CIA a élaboré plus d'1 millier de programmes malveillants permettant de prendre le contrôle d'appareils électroniques pour espionner leurs utilisateurs. De son côté, le chef de la diplomatie russe a révélé aujourd'hui qu'il se passait de son smartphone pendant des négociations des dossiers sensibles pour éviter d'être écouté par la CIA. Sergueï Lavrov est coutumier des négociations dans des dossiers internationaux compliqué, dit-il. Une nouvelle attaque aujourd'hui de drone américain au Yémen contre Al-Qaïda a fait un mort. Le drone a visé un responsable local présumé d'Al-Qaïda, identifié comme étant Qassem Khalil. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Munteco signée Claire Morin-Gibor.
Tunisair, la compagnie nationale tunisienne, a annoncé la reprise partielle et progressive de ses vols après avoir cloué au sol durant plusieurs heures l'ensemble de sa flotte en raison de vives tensions sociales. Une bagarre avait éclaté peu auparavant entre personnel navigant et technique. D'après Tunisair, des mesures transitoires fermes ont été prises dans l'attente des résultats de l'enquête administrative. Récemment, des mécaniciens ont tenu un sit-in devant le siège du syndicat UGTT pour dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes. Le Burkina Faso vient d'entamer les travaux de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, situé à Kongoussi, dans le centre du pays. Grâce à un financement de 10 milliards de francs CFA de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Réputé pour sa production de haricots verts, le lac Bam produisait plus de 3000 tonnes de cette légumineuse par an, une production tombée à environ 900 tonnes actuellement à cause de l'envasement du lac. Malgré l'accord de renouvellement de la concession de Veolia au Gabon, les autorités de Libreville ont vivement attaqué la gestion du groupe français. Dans le quotidien L'Union, le ministre de l'Énergie a dénoncé une situation proche de la catastrophe. Dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, les responsables de Veolia se disent surpris et déçus de cette attaque par voie de presse.
Nous passons directement au sport avec Nicolas Pinon. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
Quelques résultats ce jeudi des huitièmes de finale de l'Europa League.
Eh oui, depuis 18h temps universel, match nul actuellement entre Manchester United de José Mourinho et Rostov, 0-0 en Russie, un but partout entre Copenhague et l'Ajax d'Amsterdam, et puis c'est Anderlecht qui a ouvert le score sur la pelouse de la Poel Nicosie, 1-0. Puis à 20h temps universel, le choc germano-allemand entre Schalke 04 et Mönchengladbach. En Belgique aussi se tiendra un derby national entre la Gantoise et Genk, l'opposition à suivre entre Lyon et la Rome, Celta Vigo contre Krasnodar et le Beşiktaş en déplacement à l'Olympiakos.
Nico, on revient sur l'incroyable qualification du FC Barcelone en Ligue des Champions.
Eh oui, tout le monde en parle. 7 victoires, 6 buts à 1 des Barcelonais qui ont réussi à remonter la défaite 4-0 de l'aller au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Le Barça qui rentre dans l'histoire. Hein. C'est la première équipe à réussir ce genre d'exploit. Remonter 4 buts après avoir perdu à l'aller. À noter également dans l'autre huitième de finale, le Borussia Dortmund qui s'impose 4-0 face au Benfica Lisbonne. Le triplé de Pierre-Emerick Aubameyang.
Afrique, le Sénégal en finale de la CAN des moins de 20 ans.
Eh oui, Andola en Zambie, le Sénégal s'impose devant la Guinée 1-0 et retrouvera la Zambie en finale. Le but a été inscrit par Aliou Badji.
Que faut-il retenir du dernier classement FIFA ?
L'Argentine occupe toujours la tête de ce nouveau classement devant le Brésil et l'Allemagne dans ce top 10 inchangé. Seuls 4 matchs amicaux ont été pris en compte. La Pologne, sans jouer, gagne 12 places. Évidemment, c'est le meilleur rang de son histoire. À noter également plus 3 places pour l'Égypte 20e et plus 3 places pour le Sénégal 28e.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Et oui, on va parler évidemment des parquets, puisque Golden State sans Kevin Durant que traverse une mauvaise passe. Les Warriors, catastrophiques en fin de match, ont concédé leur 3e défaite en 10 jours. Une défaite 86-99, c'était hier soir face à Boston. Et quant aux Spurs de San Antonio, ils sont déjà assurés de jouer les playoffs. Ils ont signé leur 9e victoire de suite la nuit dernière. C'était face aux Kings de Sacramento. Une victoire sans 114 à 104, alors que les Spurs étaient menés, avaient 28 points de retard parfois dans le match.
Et Nico, un mot sur quand même ce match Barcelone-Paris Saint-Germain, ça a été une surprise.
Oui, un match fou, évidemment, qui a déjoué tous les pronostics.
Pourquoi les Parisiens ont perdu ?
Il y a plein d'éléments, mais évidemment, en tout cas, tout le monde est surpris par cette défaite.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, pour aborder les dossiers du jour. Au Mali, les agents de santé observent une grève illimitée. Elle est très suivie dans les centres de santé. Les grévistes revendiquent des augmentations de salaire, primes, des moyens adéquats pour faire face aux malades et maladies. Cette grève est la conséquence directe de l'absence de vrai dialogue entre les syndicats de la santé et leur tutelle. Dans ce reportage de Kassim Traoré, vous entendrez que la grève est observée sur l'ensemble du territoire malien. Nous allons y revenir dans quelques instants. Nous passons à ce qui se passe dans le pays arc-en-ciel. Les flambées de violences anti-immigrés en Afrique du Sud continuent d'inquiéter la diaspora africaine établie dans le pays de Jacob Zuma. Ce sont des millions d'étrangers qui se sentent en danger. Ils sont souvent accusés de voler le travail de la population locale et de nourrir la criminalité. Cette diaspora en appelle aux autorités sud-africaines et aux partis politiques de prendre leurs responsabilités. Arzuma Compaoré a joint à Johannesburg le président de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, Marc Bafou.
Nous demandons aux partis politiques de venir clairement dire leur position par rapport aux attaques sur les migrants. Vous allez voir que le parti, le DIE, qui est le parti des Man Machaba aujourd'hui, n'a pas une position officielle sur les attaques des migrants, alors qu'ils savent que c'est un maire DIE, donc Democratic Alliance, comme on dit, qui a incité cette violence-là. La diaspora africaine lui a demandé de retirer ce qu'il a dit et de s'excuser auprès de toute la nation sud-africaine. Il a refusé de le faire, il dit qu'il ne voit pas, il ne voit aucun mal en ce qu'il a dit. Donc le lendemain, on a été ouvrir, le 2 mars, on a été ouvrir, déposer une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme sud-africaine.
Quel est le climat général qui prévaut au niveau de l'Afrique du Sud?
Le climat général, c'est que les migrants en Afrique du Sud vivent dans une peur totale parce que le gouvernement ne prend pas des mesures assez strictes pour décourager ceux qui incitent à la violence. 150 personnes, 200 personnes peuvent aller attaquer une boutique devant tout le monde, aux yeux et au-dessus de tout le monde, et il n'y a aucun policier qui vienne arrêter un seul individu. Les statistiques montrent qu'en 5 mois, il y a eu 14 363 personnes qui ont été tuées, et mais par violence qu'on tue. Ce n'est pas des gens qui ont été malades qui ont été tués, c'est par violence. Et 14 300, c'est comme le pays était en guerre.
La diaspora africaine sur place, comment elle s'organise face à cette situation?
Nous avons une ligne, cette ligne téléphonique aujourd'hui, c'est en moyenne 90 appels par jour que nous recevons. Automatiquement, quand nous sommes informés, nous alertons le ministère de la police et automatiquement, la police est déployée dans cette région-là. Nous sommes dans un pays étranger qui nous a accueillis. C'est au gouvernement de nous protéger. Il y a quelques 2-3 jours, nous sommes en train encore de travailler sur ce dossier. Il y a eu des groupes de mineurs qui ont réagi. Ils ont tué des Zoulous, par exemple, dans un foyer de mines. Les Zoulous ont réagi. Ils ont tué 12 personnes. En fait, c'est ces réactions-là. On ne veut pas que ça arrive là. On veut que le gouvernement donne un programme clair de protection de tout le monde, que ce soit sud-africain ou aux migrants.
Marc Bafou à Johannesburg. Nous passons directement à ce reportage de Kassim Traoré au Mali pour nous parler des grèves dans le secteur de la santé.
La grande porte est ouverte. Peu d'affluence. Les parkings pour les motos sont vides. C'est le constat qu'on pouvait faire ce jeudi matin devant le centre de santé du quartier populaire Banankabougou. La raison est toute simple. Les agents de santé sont en grève illimitée.
Mon nom, c'est Bakary Monzondiara. Je suis le directeur technique du centre de santé de Banankabougou. Vous savez bien, il y a plus de 2 mois, on avait lancé une préavis de grève illimitée aussi. On a négocié, ils nous ont dit de reprendre le travail, que dans 21 jours, ils vont nous donner des résultats. Et ça fait plus de 2 mois maintenant, il n'y a pas eu de résultat. Ça a été un peu un sabotage parce que les propositions qui ont été faites, non seulement ceux qui ont été acceptés n'ont pas été exécutés, mais n'ont pas reçu d'écho favorable. Voilà, la situation est ainsi. Donc vraiment, nous sommes désolés, on a obligé. Parce que le Mali, quand tu ne parles pas, on a l'impression que tu n'as pas de besoin. Notre situation est telle que vraiment, vraiment ça ne va pas.
Au niveau du centre de référence de la commune 6 du district de Bamako, aucun mouvement. Dans les couloirs, c'est le silence des cimetières. Il faut aller vers les urgences pour voir les rares agents qui travaillent.
Samaké Moussa, secrétaire général adjoint du syndicat de la santé là, en commune 6. La grève pour nous ici, ça a été total. À part les urgences, personne n'a fonctionné. La continuation de la grève, c'est ce qui a été souhaité par le sommet. Il y a une négociation qui est en cours et à l'issue de cette négociation, alors nous verrons ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir ça. La suite dépend des résultats des négociations.
En cette première journée de grève illimitée dans les établissements sanitaires étatiques, ce n'est pas la grande affluence dans les cliniques privées.
Je suis Dr Kamara Lamine, je suis médecin généraliste permanent aux cliniques Bana. Bon, nous ne sommes pas en grève parce que nous ne sommes pas au... C'est un de nos collègues qui est venu qui disent qu'ils sont en grève. Bon, on n'a pas reçu de préavis de grève, on n'a pas été informé aussi. Parce que si ça concerne nos droits, nous sommes obligés d'aller en grève. C'est pour réclamer nos droits. Mais il y aura le service minimum quand même, quel qu'en soit. Par rapport aux autres jours, c'est toujours monotone. Parce que nous sommes en période de... En cette période-là, c'est une période, presque une période morte.
Dans les centres de santé publique, le service minimum est observé, mais pas à la satisfaction des patients.
C'est une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire malien. Bon, nous suivons cette grève depuis ce matin. Hein. Donc, oui, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui font des va-et-vient pour des soins ou pour des consultations. Mais il n'y a pas de service minimum, sauf à la maternité, pour les urgences obstétricales. Sinon, il n'y a pas d'injection, pas de pansement, pas de consultation.
Cette grève illimitée est la deuxième de cette année 2017 au Mali. Elle fait suite à celle des magistrats qui avaient eu gain de cause auprès des autorités. Les agents de santé souhaitent le même traitement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, le mariage précoce continue d'avoir lieu dans de nombreux quartiers populaires du pays. C'est l'affirmation des associations de lutte contre les violences faites aux femmes ou de défense des droits des femmes. Ces ONG mènent aussi des campagnes contre ce fléau qui compromet la scolarisation des jeunes filles. Le reportage au quartier Briqueterie à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Nous sommes dans l'enceinte de l'école franco-arabe du quartier Briqueterie à Yaoundé. Quelques jeunes filles voilées s'apprêtent à prier. Elles ont entre 9 et 11 ans. À cet âge-là, certaines jeunes filles ont été mariées précocement dans le quartier Briqueterie qui a... Le mariage précoce n'est donc pas un sujet nouveau aux oreilles de ces petites filles.
Ma camarade, parce qu'elle ne fréquente pas son père, elle dit qu'elle va aller au mariage.
Elle avait quel âge?
Elle avait 15 ans, 14 ans.
J'ai entendu que beaucoup de filles sont un peu désordonnées. C'est pour cela qu'on les envoie en mariage, pour qu'elles ne se gâtent pas dehors.
La liberté de ton de ces élèves sur le mariage précoce contraste avec celle de l'administration et du personnel enseignant de l'école. Ici, le sujet est jugé très sensible. Il heurte les conceptions traditionnelles, voire islamiques, du mariage, nous confie au micro une responsable de l'école. Du coup, c'est par le canal des associations que les dénonciations et le coût de certaines jeunes filles victimes du mariage précoce au quartier Briqueterie se font de plus en plus. L'une d'elles, basée dans ce quartier populaire, lutte contre les violences faites aux femmes. Ango Manga, directrice de l'antenne du centre à Yaoundé.
Les cas issus de la piqueterie, le premier cas concerne une jeune fille que sa tante a envoyée islamiquement en mariage récemment au mois de novembre. Toujours la famille a profité du fait qu'elle ne connaît ni lire ni écrire pour lui demander de signer un papier qui était l'acte de mariage polygamique. Et l'autre cas, ils ont eu déjà 4 enfants, mais le monsieur est parti chez ses 2 premières épouses. Elle est retournée dans sa famille à elle avec les 4 enfants.
Pour espérer inverser la tendance, la sensibilisation des jeunes filles et parents d'élèves au sujet du mariage précoce qui s'est déporté dans une école publique située à la lisière du quartier Briqueterie. Madame Josie Bert, directrice école publique groupe 1 des Koudou.
Il y a Plan et Afadem qui nous aident à travailler ensemble avec les jeunes filles de l'école pour éviter le mariage précoce. On les amène à comprendre que l'école est nécessaire plus que d'aller vite se marier.
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de jeunes filles préposées pour le mariage précoce?
Beaucoup. Il y a même une autre qui a quitté l'année passée, au moins elle est partie. À la fin de l'année, elle me disait qu'elle va se marier au mois de juin.
Et dans la vaste campagne de lutte contre le mariage précoce au quartier Briqueterie, les dignitaires musulmans ont été mis à contribution. Docteur Hayatou Mouamadou, responsable de la prédication dans la région du centre des 2 mosquées de Yaoundé.
Si on trouve certains cas, ça c'est la contradiction de ce qui est mentionné dans les textes révélés. Les imams, les prédicateurs, ceux qui portent le conseil et ceux dont les voix sont entendues ont toujours besoin de multiplier d'efforts sur la question dans la sensibilisation.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Congo-Brazzaville, 9 pays se sont engagés dans un mémorandum d'entente à mobiliser un fonds bleu pour gérer les eaux d'eau dans le bassin. La correspondance à Brazzaville, dont Ngouelangoussou.
Il s'agit d'un mécanisme de financement des projets visant à préserver les ressources en eau dans les bassins du Congo. L'idée avait été adoptée à la COP22 tenue l'année dernière au Maroc. Ginette Enoa, la secrétaire générale de la conférence des pays du fleuve Congo et du lac Tchad, la CICOS, estime qu'il était temps.
Si vous allez même dans les fins fonds de villages, des populations qui habitent ce grand bassin, vous voyez qu'ils éprouvent des difficultés à cause de cette fameux changement climatique dont tout le monde voit que maintenant on n'a pas le choix que de coopérer.
Au Tchad, les attentes sont importantes par rapport à l'assèchement du lac, selon Brat Mahamat, le ministre en charge de l'environnement.
Moi je pense déjà que si on a une bonne gouvernance, si les textes sont très bien rédigés, nous pourrons véritablement, avec les projets que nous allons mettre en œuvre, atteindre donc la population cible qui sont les bénéficiaires.
Le Fonds bleu prévoit de financer les activités visant à lutter contre la pollution des eaux du bassin du Congo. Alexis de la Rivière, un expert congolais, explique les bien fondés d'une telle mesure.
Il reste maintenant à conscientiser la population, à rédiger les projets qui vont aller dans le sens d'amener les populations à ne plus faire des pratiques de pêche destructives, par exemple. Parce que quand vous allez sur le fleuve Congo, vous trouvez des gens en train de pêcher avec des grenades, avec des poisons, tout. Et la signature de l'accord, là, je pense que c'est une solution aux multiples problèmes qui se posent à notre bassin.
La RDC, longtemps stigmatisée pour son éloignement dans les activités du bassin du Congo, revient et son vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, Léonard Chewokitundu, parle d'un engagement irréversible du géant de la sous-région.
Franchement, c'est la situation politique interne aussi qui a fait que, qui a donné l'impression qu'on était désintéressé. Mais comme je le dis, nous avions voulu prouver au continent, nous sommes vraiment partie prenante. Nous attendons prochainement la formation de gouvernement de large union nationale. Je vois que là, la question environnementale va revenir au devant de la scène et nous serons à ce moment-là. On va partir de la locomotive, au fait, pour les questions environnementales.
La création du Fonds bleu, initiée par le président Denis Sassou Nguesso, est aujourd'hui entièrement soutenue par le Maroc. Sahaladine Mezoua, président de la conférence COP22, rappelle l'importance de ce fonds pour les pays concernés.
C'est tout l'apport et toute l'expertise que nous allons apporter pour accélérer la mise en œuvre des projets de ces pays. Parce que justement, quand on a un fonds et quand on a des experts et quand on a un projet, la mobilisation de ressources pour le financement devient aisée.
Ce fonds sera basé à Brazzaville et logé dans les comptes de la Banque africaine de développement. Nguela Ngoussou à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Runanira Gahima, à la console Suleiman Tarawari, à la présentation Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Et restez en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.